Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le second livre des rois, au chapitre 4, au verset 38 à 44. Pour ceux qui voudraient utiliser les Bibles bleues, il doit y en avoir une près de vous. C'est à la page 362. Donc, deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 38 à 44. Et nous reviendrons dans quelques instants à ce texte pour le lire. Le 4 janvier, Paul Appéré, qui n'est pas des nôtres ce matin, nous a lancé un défi. Le défi de reconstruire la ville de Paris. Rien de moins. Alors non pas la reconstruire matériellement, sur ce plan-là, elle se porte relativement bien, mais la reconstruire spirituellement. Pas seulement nous, bien sûr, ici à la rue de Sèvres, mais tous les disciples de Jésus-Christ dans cette ville. La reconstruire spirituellement, rétablir l'espérance là où il y a surtout du fatalisme, témoigner d'une autre vie possible, vécue en paix avec notre Créateur. Alors ce défi, il semble complètement au-delà de nos forces, même en considérant l'ensemble des disciples de Jésus-Christ à Paris, on peut se sentir... Et à juste titre, tout petit par rapport à un tel défi. Mais comme Paul l'a souligné pour nous le 4 janvier, si nos forces sont dérisoires, les ressources du Seigneur, elles, sont illimitées. J'ai trouvé frappant, à titre personnel en tout cas, que 3 jours après cette prédication a eu lieu le premier des attentats que nous connaissons, suivi du second le lendemain, du troisième le surlendemain. Après ce message où Paul Appéré nous invitait à être des agents d'espérance et de guérison dans une ville qui en avait cruellement besoin. Un message prophétique, je pense. Après ce drame, la population de notre pays, de notre ville, s'est mobilisée pour dire non à la violence et au terrorisme. Et sans aucun doute, c'était une très bonne chose de le faire. Mais au-delà de cette unité superficielle, autour finalement d'un plus petit dénominateur commun, on sent bien que la désespérance spirituelle de notre pays n'a pas bougé d'un pouce. À part se réfugier dans le confort matériel, ou la poursuite éphémère des plaisirs, notre société n'a pas grand-chose à offrir en termes d'espérance. Nous sommes bien en plein désert, un désert spirituel, et un désert qui ne se limite pas à Paris ou à la France, bien sûr, ni même à l'Europe, mais que la Bible identifie comme étant caractéristique de la condition de l'homme, de l'être humain qui s'est détourné de son Créateur, qui s'est détourné de Dieu. J'en reviens au défi qui nous a été lancé. Comment ne pas se décourager face à l'immensité d'une telle tâche ? Alors le texte que nous allons lire dans un instant semble au premier abord n'avoir rien à nous dire là-dessus. Tellement il paraît éloigné de nous et même assez anecdotique. Et pourtant, je pense qu'un regard plus attentif peut nous aider à voir certaines similitudes inattendues avec notre contexte et peut nous rappeler surtout le Dieu, qui est le Dieu en qui nous croyons. Donc je vous invite à la lecture de ce texte de Rois 4, versets 38 à 44. C'est du prophète Élisée qu'il s'agit à nouveau. Nous faisons depuis quelque temps une série autour de son ministère dans le début du second livre des rois. Verset 38 donc. « Élisée revint au Gilgal. Or, il y avait une famine dans le pays. Alors que les prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Prépare la grande marmite et fais cuire une soupe pour les prophètes. » L'un d'eux sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Il trouva une vigne sauvage et il y ramassa des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite de soupe, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé de la soupe, ils s'écrièrent « Il y a la mort dans la marmite, homme de Dieu !» Ils ne pouvaient pas en manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Il en jeta dans la marmite et dit « Serre ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apportait du pain de la première moisson à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. du blé nouveau dans son sac. Élisée dit « Donne-le à ces gens et qu'ils mangent ». Son auxiliaire répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole du Seigneur. Deux récits étonnants. Ce ne sont pas les textes bibliques vers lesquels on se tourne le plus souvent. Deux petits récits assez énigmatiques que je vous invite à examiner tour à tour. Je vous soumets l'idée que l'un et l'autre nous donnent des signes de la présence et de l'action de Dieu dans un désert spirituel. On va voir dans un premier temps que Dieu ôte le goût de la mort, dans un second temps qu'il multiplie le pain de vie. Dieu ôte le goût de mort, donc premier point. Le premier de ces deux épisodes, s'il fallait les comparer, c'est sans doute le plus bizarre des deux. Et on peut se demander pourquoi notre narrateur a choisi de nous parler d'une histoire de soupe. Mais il y a quelques mots au verset 38 qui nous signalent d'emblée qu'il n'y a rien de léger dans ce texte. Il y avait une famine dans le pays. Je pense que l'immense majorité d'entre nous, peut-être la totalité, n'a jamais connu la famine. Et du coup, on peut facilement passer outre cette petite phrase et tout de suite nous focaliser sur cette étonnante histoire concernant la soupe. Mais je pense qu'il faut s'arrêter d'abord sur cette phrase. Le narrateur nous parle ici d'une situation dans laquelle chacun cherchait à se nourrir au jour le jour et il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Une situation dramatique dans laquelle les personnes les plus vulnérables, en particulier les enfants, les personnes âgées, sont menacées de mort, peut-être même tous les autres. Et dans laquelle donc l'unique chose qui compte pour chacun au quotidien, c'est de trouver, ne serait-ce qu'un peu, de quoi manger. Et tout le reste, tout ce qui nous préoccupe typiquement au quotidien, avait, si on ose dire, disparu de l'écran radar, certainement, pour ces personnes. Focalisé sur la nécessité de trouver de quoi se nourrir et de quoi nourrir les leurs. Et quand on tient compte de ce contexte, on comprend déjà qu'une soupe peut faire la différence, peut-être entre la vie et la mort, ou en tout cas peut apporter un secours, un répit salutaire de la faim et l'anxiété dans cette situation terrible. Donc cet épisode n'est pas si anecdotique que cela. Mais je crois qu'il nous est raconté aussi, si on tient compte du contexte de ce livre, de Rois, il nous est raconté aussi parce que la famine au temps d'Élisée n'était pas seulement matérielle mais aussi spirituelle. Les deux livres des Rois nous dressent le portrait d'une nation d'Israël qui s'est détournée de son Dieu, détournée du Dieu qui a conclu alliance avec ce peuple. Dans sa grande majorité, le peuple s'est détourné de son Dieu pour adorer des idoles en tout genre, comme cela se faisait dans tous les pays avoisinants. Et même les responsables du peuple, les rois, qui, selon l'alliance conclue avec Moïse puis avec David, avaient une vocation spirituelle, et pas seulement, n'étaient pas seulement des chefs politiques, eh bien les rois avaient institutionnalisé le culte des idoles. Eux-mêmes étaient au premier plan de cette apostasie, si on utilisait un grand mot, de cette idolâtrie du peuple. Une impiété généralisée qui nous rappelle, par certains aspects, la situation du monde dans lequel nous vivons. Et dans ce contexte de désert matériel et spirituel, une petite minorité d'environ 7000 personnes, d'après le premier livre des Rois, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à tout un peuple, cette petite minorité reste fidèle au Dieu d'Israël. Parmi cette petite minorité fidèle, il y avait un groupe d'une centaine de prophètes itinérants, semble-t-il, qui appelaient le peuple à revenir à Dieu, à revenir à cette alliance avec Dieu. Et on a déjà rencontré cette communauté du temps d'Élie, et là il en est question à nouveau ici, et c'est tout naturellement le prophète Élisée, successeur d'Élie, qui a pris la tête de cette communauté prophétique. Les prophètes, donc, il faut voir avant tout comme des prédicateurs, même si, comme on l'a vu et qu'on va le voir pour Élisée, son rôle était tout particulier. Ce texte donc nous présente un petit groupe de personnes qui persistent à croire que Dieu a des projets pour son peuple, malgré le malheur, malgré la famine, malgré l'impiété et l'idolâtrie. Et j'espère que cela nous permet de nous identifier quelque peu à cette communauté. Or, ce qu'on voit, c'est que ces prophètes ne sont pas eux-mêmes épargnés par la pénurie. Ils y font face eux aussi, et un rappel que le peuple de Dieu, dans la condition présente, n'est pas épargné par les malheurs. Ils peuvent compter sur l'appui de Dieu dans ces épreuves. Ils font donc face à la pénurie, et l'un des prophètes est réduit à ramasser n'importe quoi. Le premier fruit, semble-t-il, sur lequel il tombe, il s'agit de coloquinte sauvage, un fruit non comestible, et qu'il utilise pour faire une soupe. Et là, dès que les hommes goûtent la soupe, nous dit le texte, il s'écrie « Il y a la mort dans la marmite, homme de Dieu », verset 40. Alors on peut hésiter un peu sur le sens de cette exclamation. Est-ce que c'est simplement une manière de dire que le goût est tout simplement insupportable, que c'est une soupe immangeable ? En lisant ce texte, je me suis demandé un instant s'il s'agissait de marmite, cette délicate spécialité anglaise qui a suscité à peu près la même réaction chez moi la seule fois où je l'ai essayé. « Il y a la mort dans la marmite ». Mais l'hébreu est formel, c'est bien d'une marmite au sens français qu'il est question ici. Je sais que les Britanniques nous disent la même chose pour les escargots, le foie gras et d'autres choses. C'est de bonne guerre. Mais plaisanterie à part, il apparaît que les coloquintes sauvages ont un effet nocif sur la santé. J'ai fait mes recherches. L'encyclopédie en ligne Wikipédia nous apprend que sa chair légère, je cite, spongieuse de couleur jaune-orangée, est très amère et toxique. Et on apprend par ailleurs, je cite encore, que la pulpe séchée du fruit récolté avant complète maturité est un laxatif violent. Enfin, une étude faite sur des rats, j'ai fait le tour de la question, a montré que la coloquinte sauvage pouvait provoquer de l'hypoglycémie. Bref, il est possible que les prophètes se soient vite très mal sentis et n'aient pas exagéré tant que ça en disant qu'il y avait la mort dans la marmite, surtout pour des personnes en état de faiblesse physique en raison de la famine. Bref, cette histoire peut nous faire sourire, et c'est le cas, mais mettons-nous à la place de ces hommes. On vous apporte un repas chaud alors que vous n'avez rien mangé ou presque de la journée, mais ce repas s'avère immangeable, voire toxique. Il n'en faut pas beaucoup plus pour tomber dans le désespoir, dans cette situation. Et ce qui nous apparaît comme une petite chose, une mauvaise soupe, prend une ampleur dont nous n'avons pas conscience à première lecture de ce texte. Mais la joie revient lorsqu'Élisée intervient par un geste banal qui change tout. Manifestement guidé par Dieu, il jette de la farine dans cette soupe. Il ne faut pas voir là quelque chose de magique, mais simplement la manière que Dieu a choisie pour agir. Et le goût amer et toxique, et la toxicité effective disparaît. Je pense que si cet épisode étrange a trouvé sa place dans la Bible, c'est parce qu'il montre la grâce que Dieu manifeste à petite échelle dans une situation de désespoir. Une grâce qui préfigure celle que Dieu fera à bien plus grande échelle. On a déjà vu que par son ministère, Élisée a eu plusieurs fois l'occasion d'être le médiateur de Dieu pour accomplir des actes de bonté de la part de Dieu, des actes de délivrance. On l'a vu au chapitre 3, à ces grandes échelles là, où Dieu, par le biais d'Élisée, délivre mystérieusement les troupes israélites qui s'étaient mises dans une situation fâcheuse par leur propre erreur. Ensuite, Dieu utilise Élisée au début du chapitre 4 pour intervenir en faveur d'une pauvre dette, d'une pauvre veuve, pardon, endettée, dans une situation donc d'extrême précarité. Et puis, dans l'épisode que nous avions vu il y a quelques semaines, en faveur d'une riche propriétaire frappée par un drame personnel. Ici, Dieu utilise Élisée pour ôter l'amertume et pour rétablir sa bénédiction. Il ôte le goût de mort pour rétablir la saveur. Et encore une fois, l'auteur du Livre des Rois sait ce qu'il fait lorsqu'il sélectionne parmi les divers événements de son époque ces quelques récits. Son propos n'est pas simplement de nous raconter des histoires intéressantes sur les croyants de l'époque. Il veut nous faire comprendre que dans un contexte marqué par à la fois la détresse sociale et spirituelle, l'infidélité et l'idolâtrie d'un peuple, Dieu est toujours là. Et Dieu continue d'agir. C'est comme si Dieu donnait des flashs de grâce dans le désert spirituel qu'était Israël au temps des rois. C'est frappant de voir qu'ici, Dieu n'agit pas par un grand miracle spectaculaire, visible aux yeux de tous. Il n'écrit pas un message dans le ciel qui dirait « Je vais rétablir le peuple » ou « Ceci arrive parce que vous avez fait ceci », etc. Non. Il choisit d'agir par une grâce discrète pour faire du bien à ceux qui ont placé leur espérance en lui. Mais en ramenant la saveur là où il y a de l'amertume, Dieu ne se contente pas de bénir ceux qui ont placé leur confiance en lui, mais il donne aussi un avant-goût, il donne aussi un signe de ce qu'il va faire, encore une fois, à plus grande échelle, du rétablissement qu'il apportera à son peuple lorsqu'il ôtera l'amertume, rétablira la joie, la saveur. On le verra dans l'histoire d'Israël, d'abord avec la fin de la famine, quelque temps après cet épisode. On le verra plus tard avec le retour de l'exil à Babylone, où là encore Dieu manifeste qu'il est resté fidèle à son peuple. Et puis, dans un horizon plus vaste et plus lointain pour l'époque d'Élisée, en intervenant en faveur de l'humanité entière par la venue de son fils Jésus-Christ, sa mort à la place des pécheurs, sa vie triomphante à la résurrection. En lui, écrit l'apôtre Paul, toutes les promesses de Dieu sont oui, oui et amen. Par rapport à Élisée et à ses contemporains, donc, nous sommes des privilégiés. Il faut que nous en prenions conscience, parce que nous savons que Dieu a tenu ses promesses. Il a envoyé dans le monde un sauveur qui est venu combler d'abondance des hommes et des femmes qui mouraient de faim spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comment pouvons-nous intervenir dans un désert spirituel pour rétablir la saveur là où il y a de l'amertume? La question nous est posée en tant qu'Église, elle nous est posée aussi à titre personnel, à titre individuel. Dieu nous invite à annoncer l'Évangile, mais aussi à le vivre, à le montrer en étant des hommes et des femmes qui, face à la famine spirituelle qui nous entoure et qui souvent nous affecte nous-mêmes, eh bien, seront les médiateurs de cette saveur que Dieu ramène là où il y a de l'amertume, des porteurs d'espérance là où il y a pessimisme, fatalisme, tristesse, déception, nihilisme, tout ce que vous voulez. Et je crois que nous pouvons nous poser cette question. Quelles sont les manières dont Dieu voudrait m'utiliser à petite échelle, discrètement, pour apporter l'espérance dans des situations d'amertume autour de moi, dans mes relations avec ceux qui m'entourent, croyants ou non? Comment est-ce que je peux puiser dans la bonté et la générosité de Dieu à mon égard pour faire du bien, pour être celui ou celle qui ramènera l'espoir et la joie là où l'indifférence, l'apathie ou les larmes nous entourent constamment? Pas la peine d'aller loin pour trouver de l'indifférence, de l'apathie et des larmes, c'est partout autour de nous. Je me dis parfois, lorsque je passe par la gare Saint-Lazare, ce que je ferai très régulièrement, que le Seigneur Jésus doit poser sans doute le même regard sur ces foules qui passent par là que les foules galiléennes. Marc, dans son évangile, nous dit, au chapitre 6, verset 34, « Il en fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. » C'est juste avant la multiplication des pains. Nos contemporains ont terriblement besoin de Dieu, terriblement besoin du berger qu'il a envoyé dans le monde, Jésus. Et nous avons terriblement besoin de lui aussi, mais il s'est fait connaître à nous. Il a répondu à ce besoin. Et si nous ne le faisons pas connaître, si nous ne faisons pas goûter de sa saveur autour de nous, alors qui le fera? Comme le dira Jésus à ses disciples dans cette parole bien connue du Sermon sur la montagne, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? » Autrement dit, si le sel perd sa saveur, il n'y a pas d'autre sel pour le saler. Alors lorsqu'on parle de notre vocation d'être le sel de la terre, nous avons parfois tendance à imaginer de grandes actions sur le plan missionnaire, humanitaire, international. Et bien sûr, cela a du sens et c'est important. Mais on n'arrivera jamais à rien à grande échelle si on ne commence pas à petite échelle. Et donc j'invite chacun d'entre nous, moi le premier, à réfléchir à quelques situations personnelles autour de nous où nous pourrions être témoins de la bonté de Dieu et manifester concrètement la bonté de Dieu, par notre générosité, notre attention, notre bonté, notre hospitalité, notre consolation. sera peut-être par des gestes tout simples. On a dans ce texte un geste tout simple, la farine jetée dans une soupe. Ces gestes et ces attitudes, il faut les répéter, nous ne les puiserons pas dans nos forces propres, mais plutôt dans les ressources illimitées de Dieu, en les demandant par la prière régulièrement, en prenant conscience de ce qu'il nous a donné et en lui demandant son aide pour transmettre cette bonté dans la vie de ceux qui nous entourent. Dieu est un Dieu généreux qui aime donner ce qui est bon en réponse à nos prières. Et nous devons le croire déjà si nous voulons vivre cela et transmettre cette espérance. Et je crois que c'est le sens du second récit que j'aborde plus brièvement. Dieu multiplie le pain de vie. C'est toujours dans le même contexte de famine que se déroule cette deuxième histoire, les versets 42 à 44. Alors là encore, pour nous, si quelqu'un nous apporte du pain un jour, c'est sympathique, c'est agréable. Mais lorsqu'il y a une famine, c'est autre chose, c'est vital. Un homme, nous dit le texte, apporte à Élisée du pain de la première moisson, et puis du blé, de l'orge. C'est intéressant de noter cela, encore une fois un détail sur lequel on passe rapidement. Et pourtant, selon la loi de Moïse, c'est au prêtre lévitique que l'on est censé apporter le pain de la première moisson, et non pas à un prophète. Mais dans le contexte du livre des rois, l'institution sacerdotale, les prêtres, sont profondément corrompus. La grande majorité des prêtres du pays n'adorent même plus l'Éternel. Ça a le mérite d'être clair. Ils sont complètement passés dans un autre camp et ils sont devenus prêtres de Baal ou d'autres idoles étrangères. Et donc, en apportant à Élisée ce pain, l'homme reconnaît sans doute en lui le véritable représentant de Dieu auprès du peuple, devant la pénurie de prêtres fidèles. C'est ce que pensent certains commentateurs. Toujours est-il que le pain ne suffit pas à nourrir 100 personnes. C'est très bien d'avoir du pain, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. On fait face à un problème, encore une fois, tout simple, tout pratique. Et l'assistant d'Élisée, a priori Géasi, que nous avons déjà vu dans l'épisode précédent, expose ce problème tout simple à son maître. On n'a pas assez de pain. Mais Élisée transmet alors la promesse de Dieu. On mangera et on aura de reste. Le pain est distribué, chacun est rassasié. Et il y a même des restes, ce qui est inconcevable à une période de famine. Mais Dieu manifeste son abondance. La grâce de Dieu surabonde, écrira des siècles plus tard l'apôtre Paul. Pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour voir que ce récit préfigure, bien des siècles à l'avance, un célèbre épisode du ministère de Jésus. Et même deux célèbres épisodes, puisque Jésus a multiplié les pains deux fois, une première fois en Galilée, la seconde fois, semble-t-il, dans une région non juive. Or, les chiffres sont sans comparaison. Jésus, avec moins de pain qu'Élisée, va nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, précise Matthieu dans son évangile, donc une foule sans doute plutôt de 10 000 personnes au moins. Dans le deuxième épisode, il y a 4000 personnes au moins. Donc les dimensions sont sans comparaison. Mais il faut reconnaître que les ressemblances sont quand même frappantes entre les deux récits. Vous l'aurez peut-être noté en lisant ce texte. Il n'y avait pas de famine généralisée à l'époque de Jésus. Mais la foule qui est venue l'écouter n'a pas de quoi manger. Et encore une fois, il faut se remettre dans la situation d'une société agraire où on cherche à manger au jour le jour. Ils sont venus en masse écouter Jésus et ils n'ont pas de quoi se nourrir. De même que l'assistant d'Élisée va venir voir le prophète pour lui dire « on n'a pas assez de pain », eh bien les disciples de Jésus lui disent « mais là, il faut renvoyer les gens chez eux parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. On n'aura jamais de quoi nourrir cette foule entière. » De même qu'Élisée demande à l'auxiliaire de distribuer le pain, Jésus invite ses disciples à distribuer le pain et le poisson. Et de la même manière, sans que le miracle soit vraiment décrit en détail, il y a le même constat. Chacun a été nourri et il y a même des restes. Beaucoup, beaucoup de restes dans le cas de Jésus. On sait que les miracles de Jésus étaient des signes de l'œuvre de Dieu. On le sait parce que le Nouveau Testament l'affirme clairement. Des signes de l'œuvre de Dieu, des signes de sa propre autorité. Après avoir multiplié le pain, par exemple, Jésus se présentera lui-même comme le pain de vie. Étienne a déjà cité ce texte plus tôt. Celui qui seul peut nourrir spirituellement. Celui qui seul peut rétablir la vie là où l'homme est déjà sous l'emprise de la mort. La foule nourrie par Jésus n'était pas seulement affamée physiquement, elle était aussi affamée spirituellement. Des brebis qui n'ont pas de berger. Et nous aussi, livrés à nous-mêmes, nous sommes affamés spirituellement. Mais nous avons de quoi manger. Là où Jésus est proclamé, là où sa parole est enseignée, non seulement la saveur revient là où il y avait de l'amertume, mais la vie revient là où la mort semblait avoir le dernier mot. Donc cette petite multiplication des pains en 2 Rois 4, c'est un autre flash de grâce que Dieu a donné à ceux de son peuple qui s'attendaient à lui. Ceux qui plaçaient encore leur confiance en lui dans un contexte de faim et de soif spirituelle. Mais comme on l'a vu un peu plus tôt, par ces flashs de grâce, si on ose dire, Dieu ne se contente pas de faire du bien à ceux qui lui font confiance, mais il annonce ce qu'il fera à plus grande échelle. Alors je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des privilégiés par rapport à Élisée et ses contemporains, parce que nous nous trouvons de l'autre côté de cette promesse, de l'accomplissement des promesses de Dieu en Jésus-Christ. La venue et l'œuvre de Jésus, son incarnation, son enseignement, sa mort à notre place, sa résurrection. Mais nous attendons encore l'accomplissement final, ce que les prophètes appelaient le jour de l'Éternel. Ce jour où Dieu mettra fin au monde déchiré dans lequel nous vivons, au monde affamé dans lequel nous vivons, et renouvellera toutes choses et comblera tous ceux qui auront reçu ce don de la vie pour donner lieu à une nouvelle création. Un texte que j'aime bien citer chez le prophète Ésaïe, donc vous l'aurez déjà entendu, annonce cette nouvelle ère que nous attendons encore. Ésaïe 25, je cite des versets 6 à 8. « Le Seigneur des armées fera pour tous les peuples dans cette montagne, la montagne de Sion, Jérusalem, dans cette montagne, un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux. Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » C'est-à-dire, il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. Nous sommes des privilégiés par rapport à Élisée et ses amis, mais nous attendons encore, et nous avons ça en commun avec lui, nous attendons encore dans l'espérance cet accomplissement final. Et nous vivons encore dans un désert spirituel. Si Dieu transforme la vie de tous ceux et celles qui viennent à lui par la foi en Jésus-Christ, il n'a pas encore transformé le monde. Il le fera en ce jour que nous attendons. Alors quels sont ces flashs de grâce que Dieu nous donne pour nous aider à tenir bon dans ce désert spirituel? Il y a tout d'abord l'assurance magnifique que l'évangile, comme l'écrit l'apôtre Paul, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Autrement dit, ce message de Jésus-Christ, qui vient de Jésus-Christ et qui est à propos de Jésus-Christ, il change les vies. Et ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Nous n'avons pas à essayer de trouver la bonne formule spirituelle pour changer nos vies ou changer celles des autres. Il suffit de laisser la place à Jésus, à sa parole, à son enseignement qui balaye l'amertume et qui apaise peu à peu notre faim spirituelle. À chaque fois que l'évangile est annoncé, partagé et vécu dans nos vies, nous pouvons avoir confiance que Dieu agit pour chasser l'amertume et apaiser la faim des hommes. Mais il est très difficile de nourrir les autres si on est soi-même constamment affamé. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à manger nous-mêmes de ce pain de vie qu'il nous offre en abondance, à nous nourrir nous-mêmes de ses paroles. Si nous accordons une priorité dans nos vies à la lecture et à la méditation de la parole, il n'y a aucun doute sur le fait que nous verrons nos vies changer. Il n'y a pas de doute. Ou alors, c'est qu'on ne croit pas que c'est la parole de Dieu. Et je crains que souvent, en nous abritant derrière l'excuse de nos plannings chargés, il est vrai qu'ils le sont, mais en nous abritant derrière cette excuse, nous ne ramassions que les miettes tombées à terre de cette parole. C'est mieux que rien, me direz-vous. Mais je pense que Dieu nous invite à beaucoup plus. Il nous invite à recevoir les mains ouvertes le pain que Jésus nous donne. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre que nous avons adopté comme livre de l'été il y a quelques mois, Donc ce petit livre de Dominique Anger, La méditation biblique à l'ère du numérique, ça pourrait être un bon point de départ. C'est un tout petit livre qui coûte, je crois, 5 euros. Un bon point de départ pour réfléchir à notre vie spirituelle et notre besoin de la parole, alors que nous sommes sollicités dans tous les sens. Peut-être donc un livre à relire ou à ajouter à votre liste de lecture ou à lire en priorité. Et n'hésitez pas à vous adresser à Daniel Masson, qui s'occupe du comptoir de librairie et qui pourra commander ce livre pour vous. Mais je voudrais attirer aussi notre attention sur un autre flash de grâce que Dieu nous donne. Ce repas miniature, fait de pain et de vin que nous prenons ensemble, ce n'est pas pour rien que Jésus a choisi ces symboles du pain et du vin. C'est une manière concrète pour nous de nous rappeler que nous avons besoin de lui de manière tout aussi vitale que, et plus encore que la nourriture et la boisson. En prenant ce repas régulièrement, nous fixons déjà les regards sur cette abondance à venir, ce grand repas dont le prophète Ésaïe, entre autres, nous parle. Nous n'aurons plus qu'à mettre les pieds sous la table du banquet dressé par Dieu. Et sans nous en rendre compte, à chaque fois que nous prenons la scène, nous vivons en fait un flash de grâce. Nous nous rappelons que Jésus a tout donné jusqu'à sa vie pour nous délivrer de notre désert spirituel. Alors dans le désert qui nous entoure, celui de notre ville, parfois celui de notre vie, le désert parfois revient un peu, accrochons-nous à ces signes que Dieu est à l'œuvre. Il prépare son grand repas. Par contre, il nous envoie pour inviter chacun à ce repas. Amen.